the last speaker of the day, and we'll go back somehow to the theme when we started the session this afternoon, to parody and entertainment, and we'll be talking of a text that has already been mentioned, the Shuhanron Emaki, with Claire Bisset, who is a professor at the Université Paris Diderot, and has done a lot of work on the relation between text and images in various various contexts of Japanese culture. So, without further ado, we have to run.
Merci, Lucia. Alors le fait de terminer la journée a un avantage et un désavantage. Donc l'avantage, c'est que j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Le désavantage, c'est qu'il va falloir que je réécrive ma communication. Et notamment donc le travail que nous avons fait ensemble, donc à plusieurs, sur le Shuhanron Emaki va devoir être revu sérieusement, notamment à la suite de la conférence du professeur Ishii Kosei, qui nous a appris énormément de choses et donc qui est en lien avec ce dont je vais parler. Nous avons publié, je vais en parler, mais il va falloir retravailler le sujet. Alors malgré ce que semble indiquer le titre donc, de mon intervention aujourd'hui, je ne suis ni spécialiste des disputations bouddhiques, contrairement à tous les éminents collègues réunis autour de cette table aujourd'hui et pendant ce colloque, ni de l'histoire de l'alimentation au Japon. Néanmoins, je voudrais profiter du thème retenu par Jean-Noël Robert à l'occasion de cette rencontre pour vous proposer de faire un pas de côté et d'envisager un objet que sa tonalité parodique place à la frontière des questionnements, donc très marginalement, mais qui pourra peut-être les éclairer de façon inattendue. Le rouleau sur les mérites comparés du saké et du riz, donc Shuhanron Emaki, est un manuscrit dont je vais vous parler, est conservé à la Bibliothèque nationale de France. Cette copie remarquable date vraisemblablement du XVIIe siècle et témoigne de la fortune d'une œuvre sans doute créée au cours de la première moitié du XVIe siècle et dont une trentaine de versions a été recensée jusqu'à présent. Cette version du Shuhanron Emaki a fait l'objet d'un travail collectif sur plusieurs années, réunissant de nombreux collègues en France, il y en a deux dans la salle au moins, donc en France, au Japon principalement, au nom desquels donc je prends la parole aujourd'hui. Le texte se présente sous la forme d'une introduction suivie par trois discours où chaque protagoniste défend la voie qui lui convient le mieux, en l'espèce celle du saké, puis celle du riz, et enfin la voie médiane. Les mises en image de ce texte respectent en général cet ordre canonique et divisent les peintures en quatre sections que nous allons rapidement regarder pour la version de la BNF. Dans la section introductive que vous voyez, les personnages sont présentés dans cet ordre. Le noble de cour, Miki no Kami Kasuya no Asan Nagamochi, nous traduit par Tien Longuet Maître Che, directeur de l'Office impérial du saké. Puis le moine Iimuro Rishi Kohan, Emery garde-manger, gardien de discipline. Et enfin, le guerrier Chūzaimon no Taifu Nakahara no Nakanari, tempérant entre bassins, officier de 5e rang de la carte de la garde des portes, section de gauche médiane. Ces noms, bien sûr, donc, et voient donc les fonctions qui sont associées aux personnages, sont de nature explicitement parodique. D'une part, et programmatique d'autre part, puisqu'ils permettent de suggérer non seulement le statut social, mais aussi les goûts de chaque personnage. Nagamochi, ou Tien Longuet, a un goût immodéré pour le saké, c'est donc un jōko. Si Kōhan, le moine, ne supporte pas le saké, il affectionne le riz et donc les aliments maigres, c'est donc un gekko. Et enfin, Nakanari, ou tempérant, prône l'avoine du milieu en toute chose. Donc à la fois modération quantitative et variété qualitative. Chacune de ces peintures présente en premier lieu un banquet, donc que vous voyez ici, une salle de réception, puis donc une scène de préparation dans des cuisines. Y compris la première section, qui introduit les trois premiers personnages de la dispute et initie une joute verbale. On va donc y échanger des mots plutôt que des mets pour essayer de faire un mauvais jeu de mots. À partir de la deuxième section, chaque personnage va défendre son point de vue dans un long discours. Les trois discours respectant l'ordre de présentation des personnages. Le premier discours est donc celui du noble de cour, celui qui est présenté en premier, et propose une défense et illustration du saké, dont il loue les vertus sur le plan culturel, médical, social ou encore religieux. Il ne se prive pas non plus d'attaquer le petit buveur pour son manque d'hospitalité, son manque de tenue quand il est pris de boisson, sa goinfrerie. Le discours de l'ivrogne s'achève sur un poème japonais, Waka, dédié au Bouddha Amida, ce qui suggère son affiliation au bouddhisme de la terre pure. On retrouve dans la peinture le personnage présenté au tout début. On le reconnaît à son costume, notamment. Donc cette fois-ci, il est dépeint en maître de maison, soucieux de ses convives, au cours d'un banquet déjà passablement avancé. On voit donc certains convives commençant à danser au son donc, des musiciens, de la musique. Le langage du corps, de même que la composition générale de l'image, sert à magnifier, à exalter la notion de partage au sein de la communauté des buveurs et le relâchement socialement acceptable des ivrognes quand le mauvais buveur, lui, s'endort et donc se met en marge du groupe. La suite de la peinture montre l'espace de préparation du saké, ici, ainsi que des mets d'accompagnement et les conséquences directes des excès. La troisième section correspond au discours du moine, donc le gecko de l'histoire, donc qui, comme son nom l'indique, ne jure que par le riz et les aliments maigres et qui s'attaque violemment aux grands buveurs, l'absorption de boissons enivrantes étant en théorie strictement interdite dans le bouddhisme. Cette condamnation religieuse et morale est suivie par une louange du riz et du thé et s'achève sur un poème Waka dédié au Sutra du Lotus, ce qui suggère son affiliation à l'école du même nom, donc Hokke. De façon très cohérente, le peintre a situé la défense et illustration de la voix du banquet maigre dans la demeure du moine où nous retrouvons donc Kōran, le même moine que l'on avait vu dans la scène introductive, et on note une atmosphère toute différente entre ce banquet, le banquet maigre, et le banquet arrosé, le banquet précédent. Donc dans cette scène, prévaut une impression de grande froideur sociale, tempérée par la goinfrerie du maître de maison, donc, qui est dépeint la bouche grande ouverte, les dents apparentes, et sur le point d'engloutir son repas. La scène en cuisine propose un catalogue impressionnant des différents modes de préparation de gâteaux, à partir donc de riz et de légumes ou de fruits de saison. Donc soit à partir de riz, soit en lien avec le thé, dont on voit ici une scène de préparation. Enfin, la quatrième et dernière section, à la fois du texte et des images, illustre le discours donc du guerrier tempérant, Nakanari, l'avocat de la voix du milieu, qui condamne également l'ivrogne et le goinfre comme deux formes différentes d'un même excès. Vantant la supériorité de la modération, il poursuit son discours par une énumération quelque peu comique et absurde des avantages de la tempérance dans tous les domaines possibles de la vie humaine et le clôt par un poème Waka dédié à la voix du milieu de l'école Tendai. Dans la peinture, le guerrier est facilement reconnaissable grâce à son costume donc décoré d'un motif de coquillage qui annonce d'ailleurs la scène de préparation culinaire qui suit. La composition permet de conférer à cette représentation de banquet une atmosphère de sociabilité contrôlée, ordonnée, qui contraste autant avec la sociabilité chaude et un peu débridée du banquet arrosé qu'avec l'ordre froid, presque antisocial, caractérisant le repas maigre. Si le texte présente un aspect plus bouffon et comique, il partage avec la peinture un discours dans lequel la valeur morale de la tempérance transcende les oppositions et les réconcilie. Dans l'image, ce sens de l'équilibre et de la variété peut également être repéré dans tous les autres motifs de la scène, ustensiles, aliments, etc., donc qui permettent de conférer une grande cohérence à l'ensemble. La scène de cuisine qui suit et qui est relativement développée est également la plus célèbre de tout le rouleau et fournit un très grand nombre de détails utilisés en général par les historiens de l'alimentation comme un document sur la gastronomie de l'époque. On y prépare non seulement donc du riz et ici du saké, mais également donc des soupes, une donc sans doute une grue, un tsuru, tsuru ici, ainsi que des poissons et des crustacés, des coquillages en arrière-plan. Si l'on reprend les différents traits énoncés jusqu'ici, on voit que le Shuranland associe la voie du saké non seulement aux nobles, mais aussi au bouddhisme de la terre pure, et sans doute Ikkoshu, hein, donc le bouddhisme de la terre pure considéré comme le plus exclusiviste de tous. La voie du riz et du thé est associée aux moines sur le plan du statut social, mais également donc à la secte ou l'école du lotus. Et enfin, donc le guerrier est associé à la tempérance, la variété et au tendai. En d'autres termes, les trois protagonistes incarnent trois appétences gastronomiques, suggérées par leur nom réciproque, hein, qui recouvrent des positionnements très nets sur le plan moral, mais également les trois groupes sociaux, nobles, moines et guerriers, qui constituent ce que l'on appelle kemmon, donc les élites à l'époque, d'une part, et les trois écoles bouddhiques, ou trois des écoles bouddhiques de cette époque troublée, d'autre part. Ce lien très affirmé dans le texte est beaucoup plus discret dans les peintures, sauf pour le moine, grâce à des motifs comme les fleurs de lotus et sans doute les jeunes pages, Chigo, donc qui constituent peut-être des allusions à cette école. Or, ces trois écoles bouddhiques en particulier s'entre-déchirent au début du XVIe siècle. Donc, il a été question donc, dans l'exposé de M. Ducor, donc plutôt de Longhi, hein, au sein de l'école Dongjo Doshinshu. Ici, il s'agit vraiment des Shulon, hein, donc des confrontations de points de vue entre les écoles. Et la militarisation générale de la société transforme une opposition au départ, on peut dire, doctrinaire, dogmatique, en conflit armé, dévastant la capitale impériale, déjà très éprouvée par les famines et par les guerres. Par exemple, le Tendai adopte une attitude répressive vis-à-vis de l'amidisme du courant Ikkō. Son refondateur Lennyo, donc au XVe siècle, a été persécuté par le Tendai. Au début des années Tembun, donc 1532, l'école du Lotus va jusqu'à détruire par le feu un monastère d'une autre école amidiste, donc cette fois-ci Jōdo-shu. Quelques années plus tard, le Tendai mène une campagne de grande ampleur contre l'école du Lotus. En 1532, donc à nouveau, le monastère Honganji de Yamashina est brûlé par les moines du Lotus. En 1536 a lieu l'incident Hokke de l'ère Tembun, Tembun Hokke no Ran, au cours duquel les moines du Tendai s'en prennent à des monastères Hokke. La date d'élaboration du Shuranland n'est pas clairement connue, mais cette œuvre a certainement été élaborée dans ce cadre particulier. Donc, dans un contexte aussi tendu, il est remarquable de rencontrer une œuvre comme celle-ci, où des représentants de ces trois écoles exposent chacun leur argument de façon pacifique. Et on peut se demander s'il ne s'agit pas d'une allusion parodique, vu les arguments échangés, aux controverses bouddhiques dont elles étaient coutumières dans les faits. Si les catégories opposées, donc saké par rapport à riz, ou noble de cour par rapport à moine, par rapport à guerrier, etc., forment un système cohérent, les associations proposées par le texte, donc, par contre, sont beaucoup plus surprenantes, eu égard à la connaissance que nous avons aujourd'hui du contexte historique, social et religieux de l'époque. Par exemple, la terre pure, ou ici Ikkoshu, est davantage associée à des assises dans les campagnes et très très peu à la noblesse de cour. De même, le Tendai n'est pas du tout en général associé à la noblesse guerrière, mais plutôt précisément à la noblesse de cour. Ce décalage entre la configuration proposée par le texte et la réalité du temps s'observe également en ceci que les maisons militaires donc, étaient beaucoup plus associées à la consommation de saké que la noblesse de cour, qui, dans les documents contemporains, paraît souvent assez malmenée par les habitudes des guerriers et par la solidité de leur estomac. Le Shuranland présente donc une relation complexe avec le contexte historique, le monde référentiel, ce pourquoi il est donc difficile, en principe, de croire entièrement à la valeur documentaire des peintures. Il offre donc une vision fictionnelle, décalée et parodique des conflits sociaux, politiques, économiques et religieux de l'époque. La logique du texte et donc des images, donc d'ailleurs qui peuvent être des logiques différentes, mais la logique du texte est donc interne, elle doit être cherchée dans son organisation propre. Alors, le texte du Shuranland n'est pas documenté du tout, c'est-à-dire qu'aucune source extérieure ne permet de comprendre les circonstances de son élaboration, son intention première, le public visé, si public il y a, et la façon dont il a circulé. Selon certains spécialistes néanmoins, il pourrait dater plutôt de la fin du XVe siècle, et il est parfois attribué à Ichijo Kanera ou Ichijo Kaneyoshi, un haut dignitaire de la cour impériale et l'un des plus grands lettrés de son temps. Même s'il n'y a aucune preuve codicologique, cette attribution paraît séduisante, à plusieurs titres. D'une part, la tonalité différente des trois discours, qui montre un univers de référence particulier, un style particulier, comme si l'auteur proposait trois exercices de style, l'un à la suite de l'autre. D'une part, d'autre part, l'abondance des références à l'histoire, ainsi qu'aux classiques chinois et japonais, ce qui suppose une très grande aisance donc, dans l'écriture. Enfin, les similarités avec l'œuvre de Ichijo Kaneyoshi lui-même, ou encore le statut de l'auteur que l'on peut inférer du texte. Mais aussi, le fait que Ichijo Kaneyoshi ait été contraint après la guerre d'Honin, donc entre 1467 et 1477, avec la disparition pratiquement de tous ses biens, ou presque, donc de servir de chaperon pour le jeune shogun Ashikaga Yoshihisa en rédigeant des ouvrages de commande pour son édification morale et politique. Destiné à plaire au goût de l'élite militaire, ces textes visaient l'instruction de cet élève, apparemment particulièrement rétif, selon les préceptes confucéens du bon gouvernement. Il prônait le maintien de la cohésion du pays ou encore le mettait en garde contre tous les excès, et notamment l'excès de saké, dont Yoshihisa était, paraît-il, un fervent amateur. On pourrait donc imaginer que le Shuranland constituerait une sorte, si on prend au sérieux cette identification, bien sûr, pourrait constituer une sorte d'auto-satire à visée politique et morale, ce qui pourrait également expliquer l'anonymat du texte. Mais bon, je rêve peut-être un peu. Les peintures sont conçues de façon à correspondre à la structure fondamentale du texte. Elles datent donc selon toute vraisemblance de la première moitié du XVIe siècle. Si encore une fois on part de l'hypothèse que le texte est peut-être un peu antérieur, les peintures seraient donc postérieures à la rédaction du texte, elles seraient indépendantes en quelque sorte hein, de la rédaction du texte. Elles en proposent d'ailleurs une interprétation très libre, ce que permet le fait que le texte lui-même n'a pas de caractère narratif. Elles ont contribué à rendre l'œuvre extrêmement séduisante, elles ont vraisemblablement lui ont permis d'assurer en fait son succès, y compris à l'époque d'Edo et plus tard, et donc lui ont vraisemblablement conféré une signification qu'elle n'avait peut-être pas au départ. En effet, la dimension critique des discours est presque entièrement bannie des images, dont la tonalité générale, comme vous l'avez vu, nie toute dramatisation des conflits religieux, sociaux, économiques, à une époque où, de plus, les famines étaient monnaie courante. La présence centrale de l'alimentation dans l'œuvre semble à cet égard renvoyer à des intentions différentes, métaphoriques peut-être dans le texte et symboliques dans les images. Si les relations complexes entre le texte et les peintures sont intéressantes à imaginer, les deux énoncés pris séparément l'un de l'autre le sont tout autant. Ainsi, le texte sur lequel j'ai davantage travaillé est généralement situé dans le vaste groupe historique appelé aujourd'hui Otogizo aussi, et notamment dans un ensemble encore assez peu étudié en général, défini par sa dimension donc parodique, Irui Lonso Mono, à laquelle a fait allusion le professeur Ishii tout à l'heure. Genre dans lequel, par le biais de l'argumentation, une argumentation musclée ou non, on traite des qualités de deux objets et l'on cherche à déterminer la supériorité de l'un sur l'autre. Ce genre de texte se trouve non seulement au Japon et en Chine, mais également en Corée, au Vietnam, avec des parentés plus ou moins évidentes, donc dans un cadre général qui est celui de la culture sinisée en Asie orientale. La dispute est entièrement fictive. Les noms des personnages donc, indiquent leur caractère typique, ce sont des types caricaturaux, qui ne peuvent pas du tout être rapprochés a priori de modèles historiques précis. Ils incarnent, ils sont là pour incarner des positions argumentatives, ils sont là pour incarner des valeurs. Ils ne sont pas non plus mis en scène dans un cadre narratif. au moins dans la Vulgate du texte. La structure oppose toujours trois personnages, donc c'est un sanlon, une structure triangulaire, dont on peut trouver la trace et la source dans la production chinoise, comme on va le voir. Elle est organisée selon un modèle que j'ai appelé paratactique, c'est-à-dire par juxtaposition de discours placés les uns à la suite des autres. Et enfin, donc, deux points importants, le texte n'est pas rédigé en chinois, mais dans la langue vernaculaire, donc en japonais, wabun. Et enfin, donc, chaque discours se clôt par un poème japonais en waka. Procédé qui n'est pas sans rappeler un usage comparable de la poésie dans les disputations du Tendai, ainsi que l'a signalé Jean-Noël Robert en début de cette journée. Alors, tous les textes de ce groupe historique peuvent être classés en quatre grandes catégories du point de vue de leur organisation formelle. La première structure que j'ai repérée, c'est la structure en dialogue, donc mondo, une structure dialogique, dialoguée, qui permet aux différents parties d'exposer leur point de vue d'une réplique à l'autre et dans un mouvement de crescendo. Donc c'est en fait un principe de théâtralisation des arguments. Donc il y a un lien donc, qui a été signalé également par le professeur Ishii Kosei, donc un lien très net entre ce dispositif dialogué et les arts de la scène populaire. Donc ce principe apparaît en Chine, notamment dans le Chajulun, aux disputes du thé et du vin dont il a parlé, dû à un certain Wang Fu, et daté du début du Xe siècle. Ce texte a été découvert dans des monastères de Dunhuang, où il a été copié plusieurs fois. Il suggère d'une part, donc il a rencontré un certain succès, puisqu'on en a retrouvé donc pas moins de 6 copies, et il suggère également un arrière-plan religieux, donc à la controverse parodique. On considère que cette structure donc, du Chajulun reflète les controverses entre les trois religions, confucianisme, taoïsme et bouddhisme, qui apparaissent en Chine, donc, comme on l'a déjà signalé, donc, à l'époque donc, des 6 dynasties de la cour du Nord et du Sud et celle des Tang. Même si, comme on va le voir, cette structure à trois personnages remonte à l'époque des Han, le Chajulun constitue le premier témoignage conservé de disputation usant de la métaphore alimentaire en Chine. Donc dans le Chajulun, thé et vin personnifiés s'opposent au cours d'une joute verbale animée et finissent par être départagés par l'eau, principe essentiel dont ils découlent tous les deux, cette entité intervenant en dernier permettant de réconcilier les contraires. Autrement dit, le point de vue exprimé en tout dernier est toujours celui qui triomphe des autres. Donc, qui montre en quelque sorte la vanité de la dispute. Ce groupe est également attesté au Japon dans des textes rédigés en chinois et liés au milieu du zen médiéval. Le Shuhanlong, donc on l'a vu, relève d'une autre stratégie argumentative que j'ai appelée la structure donc paratactique. Cette structure ne se rencontre pas à ma connaissance en Chine, même si elle dérive de la première puisqu'elle radicalise en quelque sorte la structure du dialogue. Le Shuhanlong constitue, fait remarquable, le seul texte de nature parodique de ce groupe dans lequel chacun des trois personnages énonce un point de vue et une appartenance religieuse différente en trois discours successifs, formellement complètement indépendants les uns des autres, mais sans aucune interruption ni intervention. Le Shuhanlong ne peut guère être comparé ici qu'avec le Sangoshiiki du moine Kukai, qui, suivant le modèle chinois, place toujours en dernier le point de vue donc, qui correspond au sien, c'est-à-dire la voie du Bouddha, qui triomphe des deux autres, le confucianisme et le taoïsme. Si l'on suit ce principe, dans le Shuhanlong, ce ne sont donc pas les valeurs culturelles vantées par le noble, ni l'univers ascétique du moine, mais la voie médiane prônée par le guerrier, et donc l'école Tendai, qui se voit attribuer la meilleure place. Dans les anciens monogatari, les furu monogatari japonais, on a, troisième structure, conservé des traces de textes aujourd'hui perdus, où plantes et arbres, insectes et poissons s'expriment comme des êtres humains. Et là, il y a peut-être aussi le souvenir de sources chinoises. Pendant le Moyen-Âge, ce procédé anthropomorphique a remporté beaucoup de succès dans divers genres, sous la forme notamment de batailles parodiques, d'animaux notamment, peut-être donc influencé par un modèle chinois comme le poème de l'hirondelle, Yan Sifu. Dans ce groupe important, les textes sont toujours rédigés en japonais et souvent illustrés. Le plus ancien exemple conservé dans le domaine donc, qui m'intéresse et le Shōjin Gyōrui Monogatari qui oppose à la fin du XVe siècle aliments maigres et aliments non maigres. Et il a été produit, comme le Shuranlong très vraisemblablement, dans le milieu de la cour impériale. Si la structure est différente et repose sur le fait que la joute verbale dégénère en bataille rangée, c'est toujours la troisième entité, celle qui intervient en dernier, à laquelle revient le mérite de rétablir la paix, toujours à son profit. Enfin, il faut signaler une catégorie particulière, le concours poétique parodique et fictif, à l'imitation des concours officiels ou privés organisés en grand nombre depuis l'époque classique. Groupe dont le plus ancien témoignage conservé est le mochi-sake ou tawase, un concours poétique entre les gâteaux de riz, mochi, et le saké, attribué à un noble de la cour impériale au XIVe siècle. Donc, par certains traits, soit thématiques, soit structurels, le Shuranlong donc, peut être rapproché d'une part de sources japonaises, mais également de la production continentale. Et je vous donne rapidement une liste de textes du genre donc Zheng-chi, donc disputation parodique en chinois, qui offre des points de comparaison extrêmement nets. Je ne vais pas les détailler les uns après les autres, mais vous voyez qu'ils sont extrêmement nombreux et qu'on en compte à partir de l'époque des Han et jusqu'à l'époque des Ming. Donc cette énumération suggère que le Shuranlong n'est absolument pas isolé et qu'un travail énorme reste à faire pour déterminer la circulation des motifs, éventuellement des structures, etc., et les influences du corpus chinois sur le corpus japonais. Mais, donc, comme on l'a vu, le Shuranlong peut également être rapproché de la production japonaise, un groupe au sein duquel il est loin d'être le seul à combiner une thématique alimentaire à différentes formes de confrontation, qu'elles soient verbales ou qu'elles soient physiques. On note aussi un intérêt très évident, presque obsessionnel, au Japon pour les questions alimentaires. Alors qu'en Chine, le thème est nettement secondaire. Hein, beaucoup d'autres oppositions se rencontrent. Au Japon, enfin, le saké occupe toujours la place centrale. Donc le saké se trouve opposé au thé, ou se trouve opposé par exemple au mochi, au gâteau de riz, ou enfin au riz lui-même. Le Shuranlong constituant le seul cas d'association ou d'opposition entre saké et riz en tant que tel. S'il est courant de rencontrer d'autres configurations dans lesquelles les questions de valeur morale associées à la culture alimentaire sont mises au premier plan, c'est également la seule œuvre conservée dans laquelle les classes sociales et les affiliations religieuses jouent un rôle significatif, d'autant plus remarquable que, comme nous l'avons vu, la combinatoire ne correspond pas à la réalité du temps. Le thème de la modération lui-même n'est pas nouveau à l'époque du Shuranlong. Il apparaît dans les littératures hérémétiques du début du Moyen-Âge. On en trouve en effet beaucoup de résonance entre cette disputation et un essai comme « Les heures oisives » Tsurezu Legusa, d'Urabe Kenko, où cet idéal d'équilibre s'accompagne d'une critique de l'exclusivisme que l'on remarque également dans le discours du guerrier, dans le Shuranlong. Cependant, le Shuranlong se rapproche plus volontiers d'un autre genre médiéval, qui a également fait l'objet d'une remarque du professeur Ishii Kosei, la farce comique Kyōgen, dont le répertoire théâtral est extrêmement étendu, comme vous le savez, et qui traite de façon burlesque un grand nombre d'aspects du Japon de l'époque. Il se trouve qu'il affectionne en particulier les attaques contre les moines bouddhistes dont il raille précisément la propension aux débats doctrinaux et dont il raille également la nature querelleuse. Dans la controverse, Shuron, par exemple, deux religieux se querellent, chacun défendant son école de façon plus bouffonne que docte, pour finir par s'accorder autour de l'évocation de bons petits plats, donc autour de leur gourmandise commune. Il est symptomatique que ces deux moines relèvent des deux pensées exclusivistes dont triomphe de façon d'ailleurs tout aussi bouffonne le guerrier dans le Shuranlong, à savoir l'école amidiste Ikko et l'école du lotus, dont l'antagonisme était proverbial. La tonalité des interventions des deux protagonistes dans le Kyōgen, d'ailleurs, est très différente. Donc le moine Ikko étant présenté comme beaucoup plus bonhomme et le moine Lotus étant présenté comme beaucoup plus agressif. Cette tonalité agressive se rencontre également, s'observe dans les discours du Shuranlong où l'éloge, le poids respectif accordé à l'éloge, donc à un aspect, à la description d'un aspect positif de la voix, et la critique des autres voix n'a pas du tout le même poids respectif entre les trois personnages. Le moine du lotus étant le personnage le plus critique, dont la tonalité critique du discours est la plus importante. Donc c'est vraiment le moine du shakubuku, hein, le moine vraiment donc qui se signale par sa volonté de triompher des autres. Les décalages ou les discordances par rapport à la réalité historique ou ce qu'on en perçoit aujourd'hui s'expliquent donc par la métaphore alimentaire, c'est-à-dire par le principe de construction de l'ensemble du texte. En effet, il est fréquent dans les commentaires bouddhiques de recourir précisément à des métaphores alimentaires pour évoquer l'idée même de l'assimilation des vérités religieuses. Mais cette image est ici développée au point de fournir la structure même du Shuranon. C'est au guerrier que revient le mot de la fin, c'est le guerrier qui, intervenant en dernier, se voit confier le rôle donc de pacificateur entre les deux parties opposées et exclusives, représentées par le noble ivrogne et le moine goinfre. Si ce triomphe recouvre une réalité politique, la classe guerrière ayant réussi en grande partie à prendre le pouvoir au détriment des anciennes élites, hein, cour impériale et milieu monastique, l'étrange association entre le guerrier et le Tendai s'explique par l'intention de l'auteur anonyme du texte, donc qui reconnaît à la fois dans la culture guerrière sa capacité inédite de synthèse, hein, et également donc sa prééminence politique. Si cela valorise la variété et la modération, au détriment de l'exclusivisme et de l'excès. Et cette hiérarchie de valeurs qui est mise en place permet de renvoyer dos à dos les sectes Ikkō et sectes du Lotus et de pointer l'intransigeance irréductible de leur positionnement doctrinal. Au niveau littéral, et je termine par l'évocation du discours du guerrier, au niveau littéral, le guerrier tempérant démontre que les voies exclusives du riz et du saké, défendues par Tianlonghui, donc le noble, et Emery, le moine, ne s'opposent pas fondamentalement, car elles ne constituent que des formes, des états différents d'un même ingrédient, le riz, hein, puisque le saké, bien sûr, est fait à partir de riz, l'un et l'autre ne tirant d'ailleurs leur sens que s'ils sont absorbés, dans le texte. Au niveau métaphorique, la pensée de l'école Tendai est la seule dont le syncrétisme permet de dépasser les contraires. Dans le Tendai, en effet, la vérité suprême ou la vérité de vacuité, Ku, revient à dénier toute substance au phénomène et partant à ignorer les oppositions. Saké et riz ne peuvent être considérés donc comme différents que dans une vision provisoire de la réalité correspondant aux écoles qui s'affrontent en premier, Ikkō et Hokke. Au niveau absolu, cependant, Saké et riz se fondent l'un dans l'autre. C'est cette vérité de la vacuité, autrement appelée non-dualité, qui est la voie moyenne, la vérité suprême enseignée par le Dendai. Le jeu de mots entre ku ou manger, absorber, et ku ou vacuité se trouve également à la fin du Kyōgen, donc Shūron, la controverse, puisque les deux ennemis irréconciliables dans la réalité se réconcilient autour de l'évocation de leur gourmandise commune et du fait précisément de ku, de manger. Dans le Kyōgen, les deux adversaires parviennent de même à reconnaître la vacuité de leur querelle. Dans le Shuranon, cependant, leur exclusivisme est si profond qu'il faut l'intervention d'un troisième larron pour permettre de résoudre le différend. L'assimilation, si je puis dire, donc ce kakekotoba, hein, donc ce rébus entre ku manger et ku vacuité, sur lequel tout repose finalement dans le texte, a d'ailleurs connu une certaine fortune à l'époque d'Edo, comme on le voit dans ce Mekulakyo, dans ce sutra pour illettrés provenant du nord du Japon. Dans cette version du monastère Chōshōji, donc du Hanyashingyo, la formule très célèbre extraite du sutra, le monde sensible et vacuité, donc shiki-sokuze-ku, est rendu donc par des motifs suivants, shiki la bêche, donc prononciation dialectale dans le nord, shiki-suki dans l'ouest du Japon, soku par donc un bouquet ou botte, soku de flèche plantée dans une cible, zé par une pièce de monnaie, zénie incomplète, l'acrophonie étant suggérée par le caractère tronqué du motif, et enfin, coup la vacuité par un homme en train de manger. Donc j'ignore depuis quand ce rébus, cette assimilation, si je puis dire, entre coup manger et coup vacuité se trouve attestée, et peut-être vous pourrez me le dire, mais en tout cas, donc, il s'agit du principe fondamental, qui est donc un jeu de mots sur lequel finalement repose la totalité du texte. Je vous remercie de votre attention.